Flavie à Robertine. Je m'en abstins donc, mais j'étais dépité, comme tu peux croire. Mon père se prêtait donc à l'inconcevable fantaisie de Malcolm et à l'impertinent espionnage dont je suis l'objet. Je ne pouvais me débrouiller dans mes commentaires. De deux choses l'une. Ou quelque méchante langue, la marquise peut-être, avait fait accroire à Malcolm que j'ai quelque honteuse intrigue, et l'inconnu était chargé des pieds nuit et jour pour s'en convaincre, à quoi mon père consentait avec la certitude de voir triompher mon innocence, ou bien Malcolm, jaloux comme un tigre, voulait éloigner de moi tous mes adorateurs en me faisant compromettre par un tiers. Mais quoi ? Mon père eût-il donné les mains à un projet si extravagant et si lâche ? C'était impossible. Pourtant, que signifiait cette étrange formule que je relisais sans cesse, isolée la coquette ? Une nouvelle découverte fut faite par moi ce jour-là. J'allais voir Lady Rosemonde, et je réussis naturellement à me faire montrer de l'écriture de son fils. Eh bien, c'était l'écriture de la note mystérieuse. C'est Malcolm qui avait donné de sa propre main à son mouchard l'instruction qu'il suivait si fidèlement. Ceci me mit dans une si grande colère que je saisis la première occasion pour redire très péremptoirement à sa mère que j'avais fait mes réflexions et que mon refus était sans appel. Elle ne me répondit que par un sourire problématique, et je ne sais pourquoi je commençais à me méfier d'elle presque autant que de Malcolm. Ses soupçons devinrent de la certitude lorsque, au moment où je la quittais pour aller dire bonjour aux mésanges, dans leur chambre, je me trouvais dans la galerie de cette villa, face à face avec l'inconnu. Il était assez proprement mis et un peu mieux peigné que les autres fois, ce qui fit que j'hésitais à le reconnaître, ne l'ayant jamais vu d'aussi près. Je m'arrêtai pour avoir le temps de l'examiner et, comme il passait sans paraître se douter que je ne fusse pas une statue, je lui dis hardiment « Bonjour, monsieur », de ma plus grosse et de ma plus méchante voix. Il tressaillit comme un homme qu'on éveille en sursaut, se retourna, car il s'était déjà croisé avec moi, et me regarda en clignotant, comme s'il eût été encore plus myope que moi. Mais il n'est pas myope, et ceci n'était qu'une impertinence de plus. Enfin, comme je le lorgnais despotiquement, il se décida à me répondre « Bonjour, madame », d'une voix très douce et très harmonieuse qui, je dois l'avouer, me désarma un peu. Je vais te rapporter, autant que possible, mot pour mot, le bizarre échange de paroles qui se fit alors entre lui et moi. « Pourquoi m'appelez-vous madame, quand vous savez si bien qui je suis ? Est-ce une nouvelle injure ?» Il se passa la main sur le front, et, d'un air tout éperdu, il répéta. « Une nouvelle injure. Mais madame, ou mademoiselle, je ne vous connais pas. Vous jouez très bien votre rôle, à coup sûr, mais c'est du talent dépensé en pure perte, je sais tout. » « Tout, » reprit-il avec un rire contenu, « ma foi, j'en suis bien aise. » Et il allait passer comme un homme pressé de se débarrasser d'une folle quand je l'arrêtais d'un mot assez dur. Je crois que je le traitais d'espion maladroit. Il se retourna de nouveau, un peu fâché, mais souriant toujours, et sa figure avait une expression de bonté protectrice et compatissante qui me frappa de je ne sais quel respect involontaire, comme si je m'étais trouvé aux prises avec quelque grand personnage. Je me démontai un peu et il s'en aperçut. « Voyons, vous me prenez pour un autre ?»« Non. » Vous vous appelez Robert. Non pas. Ça rime, mais ce n'est pas là mon nom. Et quel est-il, votre nom ? Cela ne peut pas vous intéresser. Je ne suis pas de votre monde et je n'ai aucune relation avec les gens qui vous connaissent. Vous mentez effrontément. Diable, vous êtes bien méchante. C'est dommage, car vous paraissez très jolie. Vous êtes un impertinent. Oh, je ne crois pas. Et un menteur, je le maintiens. Vous connaissez intimement M. Malcolm et sa mère. Sa mère, non, je l'ai vue un instant. Et vous ne savez pas que vous êtes chez elle. Comment ne le saurais-je pas ? Je suis distrait, j'en conviens, mais pas au point. Et Malcolm, vous ne l'avez vu qu'un instant, lui aussi ? Le temps de lui donner une poignée de main et de prendre ses instructions ? Ah, cela est vrai, j'ai pris ses instructions. Je le sais bien, pour surveiller et isoler. Flavia, tiens, il vous a dit cela. « Eh bien, voyez, je n'oublie pas, je suis ici pour ça, justement. Mais vous ne l'avez donc jamais vu de près, Flavie ou Flavia, comme il vous plaît de dire, à l'italienne ? Non, non, en latin, Flavia. Je ne l'ai jamais vue. Si fait, c'est un être rare que je connais bien. » En Suisse, l'an dernier ? Quoi, vous étiez en Suisse l'an dernier ? Où donc ? Partout. Et moi aussi, à peu près partout. Je ne vous ai vu nulle part. C'est possible. Pourquoi m'auriez-vous vu? C'est juste. Dans ce temps-là, vous n'étiez pas chargé de suivre cette Flavia. Si fait, je la poursuivais, j'avais promis. Vous en convenez, bravo. Pourquoi donc prendre la peine de parler d'elle à la troisième personne? Je ne comprends pas. Allons donc. Voulez-vous faire croire que vous ne la reconnaissez pas? Comment je ne la reconnais pas? Que voulez-vous dire? Puisque c'est le même individu qui a voyagé. Merci pour le mot. Alors cet individu est ici? Sans doute, il y est. Après. Il avait l'air si surpris de son propre étonnement que je me demandais s'il me reconnaissait réellement et, pour voir jusqu'où irait sa distraction ou son impertinence, je lui demandais quelle figure avait l'individu. « Je ne sais pas encore, » répondit-il ingénument, « mais il doit avoir le corsage noir, un collier blanc. » « Et une jupe jaune paille, n'est-ce pas ?» ajoutai-je en jetant un regard sur la robe de gaz de Chambéry que j'avais justement ce jour-là. « Vous décrivez très bien les costumes, et votre malice est d'une légèreté. « Vous avez très bien décrit Flavie, » reprit-il en s'asseyant sur un banc de la galerie, entre deux grands tableaux enfumés. « Mais je suis malicieux, moi. Ma foi, je n'y suis plus du tout. Voyons, vous me paraissez une fille originale. Asseyez-vous donc. À côté de vous, n'est-ce pas? C'est vous qui êtes fort originale. Oh, restez debout si vous voulez. Moi, je suis fatiguée. J'ai fait au moins 10 lieues aujourd'hui. Je vous plains beaucoup. Après avoir passé la nuit à faire le guet dans un jardin, c'est très fatigant. Ah, vous savez donc tout, vous? Je vous l'ai dit. Qu'est-ce que vous avez surpris d'intéressant autour de cette treille? Rien qui vaille. C'est étonnant. Pas le plus petit mystère, pas la moindre aventure scandaleuse. Oh, ma chère, vous aimez à rire, je le vois. Il n'y a rien de scandaleux dans les mystères que je cherche à découvrir. Les lois de Dieu sont les mêmes pour tous les êtres, et il n'y a ni bien ni mal dans le vœu de la nature. Pensant avoir affaire à un homme de la plus vile espèce, athée par-dessus le marché, c'est-à-dire capable de tout, et dont la familiarité me menaçait de quelque insulte, je lui tournais le dos, en proie à un dégoût complet. Et je passais chez les petites Anglaises pour leur parler de la pluie et du beau temps. Ma curiosité était absolument rassasiée. La conduite inexplicable de Malcolm ne m'inspirait plus qu'un profond dédain. Je ne prononçais pas son nom, malgré toute l'envie que Miss Anne avait de m'entendre redire que je ne l'aimais pas. Je faisais plus. Je le haïssais et le méprisais de m'avoir confié à la surveillance d'un homme brutal et insolent, qui avait été déjà chargé par quelque autre de me suivre et de m'espionner. En rentrant, comme je descendais de voiture, je vis dans la cour de notre maison ce même monsieur qui me regardait effrontément. Alors je sentis une telle indignation que j'entrai brusquement chez mon père pour lui dire que je ne voulais pas rester un jour de plus dans cette maison et dans ce pays. « Ah bah !» s'écria-t-il, « pourquoi donc ça ?» Je refusais de m'expliquer. Il me traita de capricieuse et me railla. J'allais pleurer dans ma chambre, j'étais furieuse, et ce qu'il y avait de pis, c'était de ne pas savoir pourquoi. Le lendemain, mon père céda. Il veut tout ce que je veux, il me gâte. J'eus des remords, car je le voyais évidemment contrarié de renoncer à un séjour qui lui plaît, à des études qu'il avait reprises avec ardeur, qui avaient pour lui l'attrait du mystère, car il me les cachait ou croyait me les cacher. Enfin, à l'espérance de me faire épouser le fils de Lady Rosemonde. Quant à celui-ci, je résolus d'en avoir le cœur net. Et, malgré ma répugnance à m'occuper de lui, je partis pour la villa de notre amie, résolue à lui demander compte des excentricités de son Benjamin, excentricités qu'elle ne pouvait ignorer, puisque le mouchard avait taxé chez elle. J'arrivai à 11 heures du matin. Ces dames étaient à prendre le thé dans la galerie, qui est l'endroit le plus frais de nos demeures italiennes. Je pris naturellement le grand escalier, mais des laquais le balayaient, et, pour fuir la poussière dont un nuage s'élevait devant moi, j'entrai à tout hasard dans un passage que je croyais devoir correspondre avec l'autre bout de la galerie, mais il n'aboutissait qu'à une chambre ouverte. À des armes, à des vêtements, je vis que j'étais dans l'appartement d'un homme. Au portrait de Lady Rosemonde encadré dans l'alcôve, je m'assurai que j'étais chez Malcolm. La porte d'une pièce voisine était ouverte aussi, et il s'en exhalait une odeur de camphre qui me fit tousser. « Qui est là ?» dit une voix douce qui partait de cette pièce et que je reconnus pour celle de mon espion. Je ne répondis pas, je restais immobile. De son côté, il ne parut pas avoir bougé. Au bout d'un moment, j'approchai de cette porte sans faire aucun bruit et je regardais. C'était une chambre remplie de cartons et de boîtes un peu en désordre. Au milieu, une grande table toute couverte de 1000 objets incompréhensibles dont je ne m'attachais pas à deviner l'usage. à cette table, et me tournant le dos, l'inconnu était assis, absorbé dans la lecture. J'avançai un pas, puis deux, observant avec soin de ne pas faire entendre le frou-frou de mes jupes. J'arrivais à voir, par-dessus l'épaule de l'inconnu, ce que, alternativement, il regardait et lisait. Devant lui, sur la table, il y avait un assez beau papillon jaune et noir, enfilé dans une longue épingle et pirouettant sur lui-même d'une façon déchirante, tandis que son bourreau, insensible à ce supplice, lisait dans un livre raturé en rouge, en bleu et couvert de notes marginales au crayon, une page dont le titre en grosses lettres me donna un éblouissement de surprise et de fureur contre moi-même. Devine ce qu'il y avait en tête de cette page. Écaille Flavia, tribu des Chélonides, genre Chélonia, Sibérie, Helvétie et Dauphiné. Le naturaliste regardait de temps en temps sa victime, la comparant avec la description de son livre, car cette Flavia, cette chrysalide dont Malcolm l'avait chargée de surveiller l'éclosion nuit et jour et d'isoler la coque, la véritable Flavia de Malcolm, c'était un papillon. Je restais interdite d'abord. Je ne comprenais pas encore ce qui m'a été expliqué depuis. Mais je voyais bien que j'avais fait une énorme méprise. Et, ma gaieté naturelle reprenant le dessus, je ne pus retenir un immense éclat de rire qui fit retourner brusquement le naturaliste. « Ouida, me dit-il avec sa familiarité rustique, c'est encore vous. N'approchez pas de la table, je vous prie. Vous feriez quelque malheur avec vos crinolines et vos pendeloques de bracelets. Allez-vous-en, nous causerons plus tard si vous voulez. Non pas, lui dis-je, nous allons causer tout de suite, pour la dernière fois, probablement, et ce ne sera pas long. Cachez cette pauvre bête qui souffre, je vous promets de ne pas approcher de votre table. Répondez à une seule question. Me connaissez-vous, oui ou non ? Je ne vous connaissais pas hier matin. Hier soir, je vous ai vu rentrer à la villa D, et j'ai appris que vous étiez la fille de M. de Kerr, qui a loué cette villa pour la saison, et qui est un fort aimable homme. Êtes-vous contente ? Après ? Après. Rien. Vous avez dit me croire folle hier. Mais, oui. Après ça, je n'en sais rien. Vous vouliez parler entomologie ? Moi, je ne sais parler de rien aux dames. Je ne suis pas homme du monde. J'ai dit quelque chose qui vous a déplu, je ne sais ce que c'est, je vous en demande pardon. Est-ce fini ? C'est fini, je vous pardonne. Merci. Je le laissai arranger son papillon et je me rendis auprès de nos Anglaises. Je n'étais plus de mauvaise humeur, je n'en voulais plus à personne. Mais j'avais d'assez bonnes raisons, ce me semble, pour déclarer à Lady Rosemonde que je ne serai jamais la compagne d'un naturaliste. Comment, vous croyez Malcolm, naturaliste ? Je n'en sais rien, mais il est amateur de papillons. C'est vrai, mais pas à l'état de manie. Ça viendra, on n'est pas collectionneur à demi. Voyez mon père, sa passion pour les oiseaux ne fait que croître et embellir. Plus on la combat, plus elle s'exalte. Cela empêche-t-il votre père d'être le meilleur des hommes et de vous gâter horriblement ? Quelle fille est plus heureuse que vous ? Je ne serai peut-être pas toujours heureuse, par la raison que j'ai été horriblement gâtée. Et, si j'ai été gâtée ainsi, ce n'est pas seulement parce que j'ai pour père le meilleur des hommes, mais encore parce que cet homme excellent est absorbé par une idée fixe qui l'a toujours empêché de m'étudier et de me connaître. Je pardonne de toute mon âme à ce bon père si candide, si pur, si doux, si généreux qu'il est presque un ange. J'estime tout homme qui, en fait de passion, n'en a que d'innocente comme la sienne. J'en peux faire mon ami, mais mon mari jamais. Vous avez tort, ma chère. Une passion qui donne à l'homme cette disposition à être un ange, comme vous le dites de votre père avec raison, n'est pas seulement innocente, elle est divine apparemment. Admettons qu'elle le rende un peu distrait et trop tolérant peut-être dans son intérieur. Ce n'est pas vous, éprise de la liberté, qui devriez vous en plaindre. Mais si, précisément, je n'aurais pas cette passion de liberté si on ne me l'eût pas laissé prendre, et vous voyez bien que c'est cette passion-là qui m'empêche de me marier. Nous tournons dans un cercle vicieux, reprit Lady Rosemonde. Voyons, il est donc bien décidé que Malcolm vous est odieux. Mariez-le avec sa cousine, et je les aimerai tous deux comme mes meilleurs amis, après vous. Soit, j'essayerai. Mais encore un mot. Comment avez-vous découvert cette entomologie que l'on vous cachait si bien ? Pourquoi me la cachait-on ? Vous aidiez donc à me tromper ? Non, je savais que mon fils avait essayé de vous présenter M. Villemer. Ah, il s'appelle Villemer. Cela vous intéresse, son nom ? Pas du tout, ce n'est pas un nom. Pardon, c'est le nom d'un homme très savant dont votre père fait le plus grand cas et que Malcolm aime comme son frère. Ah, vous voyez donc bien les inconvénients de la science chez un homme du monde. Elle lui donne pour amis des êtres impossibles. Vous ne me persuaderez pas que Malcolm puisse jamais faire accepter à sa femme la société d'un homme qui ne sait pas seulement saluer et qui ne paraît pas faire la moindre distinction entre une lady et une blanchisseuse. Vous l'avez donc vu, ce pauvre monsieur Villemer, dit en riant Lady Rosemonde. Oui, c'est un affreux cloporte qui se placera entre Malcolm et sa femme si vous n'y faites pas attention. Je ne crois pas. Ce cloporte n'a nulle envie de se placer ailleurs que dans les bois, dans les rochers et dans les prairies, où s'enferme et se répand tour à tour son existence nomade. Vous l'avez rencontré à la Chartreuse. Malcolm voulait attirer votre attention sur lui. C'était un prétexte qu'il cherchait pour vous le présenter et vous réconcilier avec l'histoire naturelle. Et vous vous êtes si vivement prononcé sur le compte des savants et des amateurs qu'il a gardé le silence. Le pauvre enfant était prêt à renoncer à des études qui l'amusent et ne l'absorbent pas. Je les lui rends de toute mon âme. Miss Anne, je l'ai remarqué, adore les papillons. Elle l'aidera à en attraper, et moi, je continuerai à être le papillon qui ne se laisse pas prendre.